This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense à Ewer en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jazzons l'histoire ou quand le jazz retrouve des repères, une émission de Gérard Viols et Alain Vaquier réalisée par Bruno Bertrand. Cette année-là, donc, en 1925, j'évoquais lors d'un épisode précédent le Ku Klux Klan. Il y eut pire. Comment est-ce possible? Eh bien oui. 1925, c'était la date de publication d'un livre, d'un texte, Mein Kampf. Mon combat, en français. Ouvrage rédigé par Adolf Hitler entre 1924 et 1925 et publié donc en 1925. Rédigé pendant sa détention à la prison de Landsberg, détention consécutive au putsch de la brasserie, un coup d'État manqué, un moment où son organisation, l'organisation qu'Hitler a mis au point, décidera de changer de méthode. Donc le putsch est raté, il écrit ce livre, et ce livre contient des éléments autobiographiques. Il contient toute l'idéologie politique du nazisme. Il contient l'histoire des débuts de ce fascisme-là et diverses réflexions sur la propagande ou l'art oratoire. On peut dire que dans ce livre, non, alors j'allais dire que peut-être il faudrait lire ou relire, eh bien tout y est. On peut penser que ceux qui l'ont lu en 1925, même s'ils ne croyaient pas dans la réussite de cet individu, eh bien, auraient pu imaginer la suite. Parce que rien de ce qui n'était écrit n'a raté. Tout a été réalisé. Il n'a pas... Au fond, ce qui avait germé dans la tête de ce fou furieux, de ce criminel exemplaire, eh bien, s'est formalisé par la suite. C'est bien ça le problème. Alors que faut-il faire de ce livre? Faut-il le mettre aux poubelles de l'histoire? Ou bien au contraire, faut-il le replacer dans son contexte et en faire une lecture d'aujourd'hui? Comment se fait-il que les historiens contemporains n'ont rien fait pour une lecture critique qui permettrait de comprendre que, comme disait Brecht, la bête est toujours là et qu'elle peut à tout moment renaître au travers d'un texte comme celui-ci, ou de beaucoup d'autres, le Ku Klux Klan en est une illustration. Voici ce qu'un reportage nous permet d'entendre de nombreuses années plus tard, dans la ville de Landsberg, où fut écrit ce texte d'Hitler.
À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les soldats alliés découvrirent une réalité sans précédent dans l'histoire. Des camps, conçus pour mettre à mort de manière industrielle des millions d'êtres humains, hommes, femmes et enfants. C'était l'aboutissement de l'entreprise nazie, responsable d'une guerre qui fit 40 millions de morts à travers l'Europe. Cette barbarie avait une origine. La volonté et l'imagination d'un seul homme. Cas unique parmi les grands criminels de l'histoire, Cet homme arriva démocratiquement au pouvoir et fut aimé jusqu'à sa chute par une large partie de son peuple. Plus exceptionnel encore, dès le début de sa carrière politique, il avait annoncé ses projets de guerre et de destruction. Non pas dans un opuscule, mais dans un best-seller distribué massivement. Voici l'histoire de ce livre. Landsberg, une petite ville en Bavière. Ici, comme dans toute l'Allemagne, évoquer Mein Kampf auprès de la génération de la guerre n'est pas une chose aisée.
Nein, kenne ich nicht. Na ja, wir haben schon ausgekämpft.
Wollen wir auch nicht kennen. Sehen Sie nicht? Nein, wollen wir auch nicht.
Die Zeit ist vorbei. Die Zeit ist vorbei.
Mein Kampf, un sujet qui dérange. Un livre longtemps enfoui dans les mémoires. Manfred Dailer, un habitant de Landsberg, est né, lui, juste après la guerre.
À quel moment avez-vous entendu parler de Mein Kampf pour la première fois ?
Je ne me souviens pas exactement. Ça s'est produit quand j'étais adolescent, quand j'avais 16 ou 17 ans. Ça avait duré longtemps avant qu'on en parle. Entre nous, les adolescents, c'était une sorte de secret qu'on se transmettait de bouche à oreille, car la génération plus âgée n'en parlait jamais. C'était une histoire spéciale autrefois.
Une histoire qui commence ici même, dans la vieille prison de Landsberg, il y a 80 ans. C'est dans cette cellule, au cours de l'année 1924, qu'Adolf Hitler a écrit Mein Kampf. Chef d'un groupuscule ultranationaliste, le NSDAP, il vient de tenter un coup d'État contre la jeune démocratie allemande. Déjà, il veut un régime autoritaire. C'est un échec. Et Hitler est condamné à plusieurs années de prison. Son avenir politique s'assombrit. Et même s'il dispose de confortables conditions d'incarcération, les journées derrière les barreaux sont longues. Alors Hitler décide d'écrire un livre pour justifier son putsch et poser les bases de son action future. Il dicte son texte à plusieurs de ses camarades emprisonnés, dont le célèbre Rudolf Hess. Deux ans plus tard, Hitler, jugé inoffensif, est libéré.
Alors le texte originel de Mein Kampf a été remanié à plusieurs reprises par l'entourage de Hitler pour lui donner une forme plus cohérente et plus lisible. Le premier volume est publié le 18 juillet 1925, le second le 11 décembre 1926 et se termine avec une dédicace à son professeur Dietrich Eckart. À sa parution, le livre qui coûtait le prix élevé à l'époque de 12 Reichsmark connaît un succès modeste. Et jusqu'en 1929, 23 000 exemplaires du premier volume et seulement 13 000 du second furent vendus. Après 1930, le tirage augmente fortement. Jusqu'en 1935, il s'en vendra 1,5 million d'exemplaires. À partir de 1936, il devint le cadeau de mariage de l'État au couple allemand. Jan Kershaw, célèbre historien, estime le tirage à environ 10 millions d'exemplaires en allemand jusqu'en 1945, ce qui représente près d'un foyer allemand sur deux. À tel point que les revenus littéraires de Hitler lui permirent ainsi de renoncer à son traitement de chancelier en 1933. Ce qui l'aida bien sûr à légitimer davantage sa prise de pouvoir. Le livre a été traduit en 16 langues étrangères, dont une dizaine par l'éditeur officiel. Pour des raisons politiques, les versions traduites furent souvent expurgées, modifiées ou inexactes. Par conséquent, on retrouve de nombreuses divergences idéologiques et sémantiques, parfois même jusqu'à rendre certaines versions tout à fait incohérentes. Du reste, Hitler lui-même ne tenait pas à ce que le public étranger, notamment français, ne devine ses véritables intentions et préférait une version expurgée de ses passages les plus virulents. À partir de 1933, le livre devint une référence politique et fut édité en plusieurs formats. On en fit notamment une version de luxe destinée aux dignitaires nazis. Une version en braille fut également publiée. En 2008, tout près de nous, les ventes totales de Mein Kampf depuis sa parution sont estimées à 80 millions d'exemplaires. Selon cette estimation et d'après les estimations de Jan Kershaw, l'historien dont je parlais tout à l'heure, 70 millions d'exemplaires auraient été autorisés après la chute du Troisième Reich. En janvier 2014, le site d'investigation Vocative publie une étude malheureusement non étayée par des chiffres indiscutables, et indiquant que la version e-book de Mein Kampf serait en tête des ventes sur la librairie en ligne Amazon, ainsi que sur iTunes, la plus importante plateforme de téléchargement, et ce, souvent sans avertissement auprès du lecteur. L'auteur de l'enquête, Chris Faraone, fait remonter à 2008 la première version pour liseuse de Mein Kampf, toujours en version anglaise. Plusieurs versions e-book sont disponibles maintenant. Pour Adrien Gardner, cofondateur de la librairie en ligne Feedbooks, cette augmentation vient de l'effet papier craft, encouragé par les e-books. Les gens mettent du papier craft autour de la bouteille et dissimulent la bouteille dont ils consomment le contenu. C'est ça l'effet craft. Alors concernant ce que contient ce livre, et le reportage qu'on a entendu nous montre que tout est dit, effectivement. Et d'ailleurs, le maréchal Lyautey, grand militaire français, a déclaré dans les années 30, que tout Français devrait lire ce livre. Même Pie XII, le pape, déclare en 29 « Ou bien je me trompe vraiment beaucoup, ou bien tout cela ne se terminera pas bien. » Alors, quelques éléments de cet ouvrage. Hitler y dit que la cartographie de l'Europe issue du traité de Versailles, traité passé après la défaite allemande au cours de la Première Guerre mondiale, est inacceptable parce qu'elle a pour conséquence immédiate l'éclatement des peuples de culture allemande. Raison pour laquelle il essaiera de rétablir l'unité allemande. Il dit plus loin, l'Autriche et les minorités allemandes de Tchécoslovaquie et de Pologne doivent être rattachées à l'Allemagne en un seul espace géographique. C'est la théorie du Grand Reich. Là encore, il a tenté et réussi de le réaliser. Pour assurer l'épanouissement du peuple allemand réunifié, il préconise la voie des chevaliers teutoniques. Je cite, « Conquérir par l'épée allemande le sol où la charrue allemande devrait faire pousser le blé pour le pain quotidien de la nation allemande. » Fin de citation. Alors évidemment, Toutes ces données impliquent de réarmer le pays et d'atteindre l'autosuffisance économique pour une série de conquêtes territoriales. Mais il y a beaucoup plus intéressant. Là, on est encore dans la géopolitique. Mais voilà ce qu'on peut lire également. Les individus handicapés doivent être éliminés. Et je cite la phrase « Anéantir avec une décision brutale les rejetons non améliorables ». Je cite encore « L'Arien est le Prométhée de l'humanité ». Les peuples inférieurs doivent être asservis aux peuples supérieurs, dont fait partie le peuple allemand. Tout peuple supérieur autre que le peuple allemand, s'il en existe, doit lui aussi être éliminé sans délai, car il constitue un danger. Le métissage serait une autre façon de neutraliser leur danger à terme. Mais ce serait au prix d'une perte d'identité de la race. Il faut interdire le métissage et il faut que le peuple menacé élimine l'autre. Voilà un contenu qui ne souffre aucune ambiguïté. Tout était clair. Et lorsque Édouard Daladier ou le chancelier en britannique, ont négocié le traité de Munich, tout cela était connu. Ils ont donc négocié en connaissance de cause. Enfin, on ose l'espérer. La France est désignée dans Mein Kampf comme un ennemi à abattre, ennemi héréditaire. Et je cite, « Si j'étais français, et si par conséquent la grandeur de la France m'était aussi chère que mes sacrés celle de l'Allemagne, je ne pourrais et ne voudrais agir autrement que ne le fait en fin de compte un Clémenceau. Hommage d'Hitler à Clémenceau. » Autre citation, « Notre objectif primordial est d'écraser la France. Il faut rassembler d'abord toute notre énergie contre ce peuple qui nous hait. Dans l'anéantissement de la France, l'Allemagne voit le moyen de donner à notre peuple, sur notre théâtre, toute l'extension dont il est capable. »
Thank you.
avec ce petit écho à la fin du morceau par les Washingtonians en novembre 1924. En l'occurrence, il s'agit de l'orchestre, du premier orchestre de Duke Ellington qui commence à atteindre une certaine notoriété. Alors, le jazz est considéré par le régime nazi comme une musique dite de dégénérée. Et avec le recul de l'histoire, on peut en sourire parce que qu'a produit musicalement le Reich en matière de musique, en matière d'art, en matière de culture, on peut se poser quand même quelques questions. Ils ont surtout pillé les musées et les collections des pays envahis qui n'ont fait autre chose. Donc, ironie de l'histoire, ce sont ces Noirs-là qui ont fait cette musique de dégénérés qui auront gagné au fil du temps, puisqu'il est clair que le jazz s'est imposé comme l'une des musiques du XXe siècle contre toute autre forme de barbarie. Alors, l'orchestre d'Ellington, je disais, fin 1924 et donc début 1925, commence à être connu et il fait ses débuts à Broadway. Et puis, peu à peu, la notoriété va l'amener à sa période dite Cotton Club. Et c'est là que pendant quelques années, jusqu'en 29, il va animer ce fameux club new-yorkais avec une forme d'orchestre qui durera jusqu'à la fin des grandes formations de Big Band. Alors Duke Ellington, c'est un chef d'orchestre, certes, mais c'est surtout un compositeur, c'est un penseur de la musique jazz, de la musique tout court d'ailleurs, et aujourd'hui on le reconnaît comme l'un des grands compositeurs américains du siècle. Je vous propose d'écouter un deuxième extrait de cette formation. Alors pas de cette formation-ci, mais d'une formation un peu allégée, puisque Duke Ellington y joue en compagnie de Irving Mills, qui est au vocal et qui joue du kazoo. Ça s'intitule « Everything is Osti Tutsi Now ».
Look at me, I'm busy as a bee. I got a lot to do, do, do. I'm gonna build a home, a cozy little home, just room enough for two, two, two. There's gonna handle him out of the family tree. I found a girl as sweet as she could be. So everything is Jake, what a lucky break, I'm happy as can be. Cause I got myself a brand new hot seat. I'm her hot seat, she's my hot seat. Everything is hot seat now. What I did was pop the question. She said, what a great suggestion. Everything is topsy-topsy now. No more crying, no more sighing. I'm through with the blues. Does she love me? Turtle love me. I tell the world she do-do-do. Got myself a brand new hottie. I'm her hottie and she's my hottie. Everything is topsy-topsy now. I've got myself a brand new Tossie. I'm her Tossie, she's my Tossie. Everything is Tossie, Tossie now. I just bought the ring for Tossie's finger. Just a thing, a real humdinger. And everything is Tossie, Tossie now. So long sadness, hello gladness. You're welcome at all. Every little thing is peaches down in Georgia now. Cause I got myself a brand new Tossie. I'm her hottie, she's my Tossie. And everything is Tossie, Tossie now. Happy, she's driving me wild.
10 o'clock I say adieu, but I'm still there at half past two. So everything's happy now.
Enregistré le 8 juin 1925, Irving Mills à la voix et Duke Ellington dans un style pianistique assez étonnant et inhabituel de sa part, le tout enregistré à New York. C'est le début d'un style, d'une nouvelle façon de faire du jazz pour Ellington. Il va instaurer une nouvelle période dans sa façon de jouer et surtout dans les ambiances de son orchestre. C'est ce qu'on va appeler le style jungle, dont un morceau est ici emblématique, et nous terminerons par celui-ci, Black and Tan Fantasy.
I take pride in the words Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte j'ai ouvert en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.